Il est 16h03 et pour cette dernière émission, je suis avec Corentin et l'ambiance autour de la table, même si l'on n'est que deux, risque d'être un petit peu chaude, c'est le moins qu'on puisse dire. Rebonjour oui. Corentin.
Rebonjour Clément. Bon, avant de commencer, voici une petite question. Quel est le point commun entre le sexe et les équations ?
Ah, c'est des souvenirs très lointains, tout ça. Enfin, ça remonte à mes années de lycée et je parle des équations quand je dis ça.
J'en doute pas.
Ah bah évidemment, on peut en douter.
Ben pour les équations, comme pour le sexe, ça devient marrant à partir de trois inconnus. Chers auditeurs, auditrices et amis de tous horizons, bonjour. Je vous retrouve pour ce quatrième numéro de Danse avec les maths, numéro très spécial puisqu'il est diffusé en direct du studio de l'ENS de Lyon. J'adresse un petit coucou à Alexander qui n'a pas pu participer à l'émission à cause d'une maladie qui frappe les élèves de mono, le stage de fin d'année. Comme vous l'aurez compris, ce volet sera consacré à un thème très racoleur. Il sera question de sexe et de maths. Dans une première partie, on verra à quel point les mathématiciens et mathématiciennes peuvent être de petits coquins et coquines, puisque nous éplucherons le répertoire des expressions apparemment anodines, mais complètement salaces des maths. En deuxième partie, je vous proposerai de comprendre par les maths ce qui fonde notre désir, qu'il soit d'ordre sexuel ou autre. Nous parlerons du beau. Commençons sans plus attendre avec la première partie. Comme promis, voici un classement des expressions les plus salaces que vous pouvez retrouver en relisant votre cours de maths ou en feuilletant des ouvrages de référence et qui sont utilisés pour désigner des notions tout à fait sérieuses. Qui a dit qu'on ne pouvait pas découvrir les maths par le sexe ? Clément, est-ce que tu peux me donner le premier mot ?
Mais avec un très très grand plaisir ! On ne peut pas faire de maths sans parler de courbes.
Ah, c'est très bien. C'est un classique celui-là, mais je ne pouvais pas l'omettre. On entend souvent le terme de courbe au lycée quand il s'agit de représenter des fonctions sur un graphe, et on parle alors de courbe représentative de fonctions. Il y a aussi tout un tas de notions adhérentes qui éveilleront peut-être des souvenirs chez certains. Maximum, minimum, tangente, mais aussi monotonie, limite, asymptote et encore point d'inflexion. Bref. Une autre discipline, la géométrie algébrique, définit une courbe comme une variété algébrique irréductible de dimension 1.
D'accord.
Bon, mais bon, soyons honnêtes, c'est juste pour me la péter avec des termes savants, on n'entrera pas dans les détails.
Mais qui dit courbe, dit aussi corps.
Ah, et oui, car on manipule beaucoup de corps en maths, et des corps très variés. Des corps parfaits, des extensions de corps, des corps finis. Bon, tout ça peut prêter à rire pour un néophyte.
Oui.
Malheureusement, un corps en mathématiques, Clément, c'est tout autre. C'est un ensemble, c'est-à-dire une collection d'objets, comme les nombres, qui possède une structure particulière permettant de faire des additions, soustractions, multiplications et divisions sur ces objets. Par exemple, les nombres que nous connaissons tous, appelés aussi les réels, forment un corps, le corps des nombres réels. Mais il y en a d'autres, comme le corps des nombres complexes. Mais enfin, pour vous montrer à quel point les matheux et matheuses sont obsédés, il y a une dénomination pour désigner une succession de corps qui se contiennent les uns les autres. On parle d'une suite de corps emboîtés.
C'est très érotique tout ça, et on parle de corps, emboîtés. Et qu'en est-il de ce cher point G ?
Ah, le fameux point G, aussi appelé centre de gravité. Alors, mythe ou réalité ? Eh bien, réalité, en maths en tout cas. Cette notion intervient quand on parle de barycentre d'une figure. C'est un point placé sur une figure en fonction de la masse qui est concentrée en chacun des autres points de la figure. Il est plus proche des endroits très denses et plus éloigné des autres. C'est pour ça qu'on le nomme aussi parfois centre de masse ou centre de gravité. Dans un triangle, c'est l'intersection des médianes par exemple. Le concept de barycentre est notamment très utile en mécanique des solides.
N'empêche Corentin, les matheuses et matheux ont des fantasmes bizarres. Pour eux, il y a des nombres sexy.
Ah oui, mais non, ce ne sont pas des nombres musclés, aux pecs et abdos bien développés, ni des nombres avec de gros boobs. Non, les nombres sexy sont des nombres premiers particuliers. Je vous rappelle, un nombre premier, c'est un nombre entier supérieur à 2, qui n'est pas un multiple de nombres différent de 1 et de lui-même. Bon, par exemple 2, 7, ou un autre un peu plus compliqué, 15 485 863, croyez-moi. Bon, eh bien, un nombre sexy, c'est un nombre premier qui, lorsqu'on lui ajoute 6, est encore premier. Par exemple, 5 est un nombre sexy, car 5 est un nombre premier, et 5 augmenté de 6, ce qui fait 5 plus 6, soit 11, est aussi un nombre premier. Bon, vous l'aurez compris, le terme sexy provient de 6 en anglais, 6 en allemand, sex. De nouveaux horizons s'offrent à vous. Je vous laisse le soin de partir à la conquête des autres nombres sexy.
Bon, d'accord. Et tu nous as bien fait comprendre que les maths sont une discipline sexuée. Peut-on parler de genre ?
Bah, absolument. Ah. Vous avez le physique d'une matrice, mais vous êtes plutôt endomorphisme au fond de vous ? Ou bien l'inverse ? C'est que votre genre ne correspond pas à votre sexe. Plus sérieusement, le genre d'une surface, les mathématiciens et mathématiciennes aiment aussi dire d'une variété réelle de dimension 2. Le genre, donc, c'est une propriété de cette surface. Imaginez une telle surface. Vous pouvez dessiner au crayon des chemins, et même des chemins qui reviennent à leur point de départ, c'est-à-dire en forme de boucle. Il se peut qu'une boucle, une fois tracée, sépare la surface en deux surfaces distinctes. Par exemple, tracer un cercle sur un plan, on a deux nouvelles surfaces, ce qu'il y a à l'intérieur du cercle et ce qu'il y a à l'extérieur. Eh bien, le genre d'une surface, c'est le nombre maximal de boucles que l'on peut dessiner sur cette surface sans la séparer en deux. Pour une sphère, le genre est 0. Toute boucle sépare la sphère en deux. Bon, d'autres sphères, comme le torse, sont de genre 1. Et surprise, on a constaté que le genre d'une surface peut être lié à son nombre de trous. Il y a donc bien une différence avec la théorie sociologique du genre, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà pour ce petit top des expressions coquines des maths. J'espère que ça vous aura permis de comprendre certaines notions ou au moins donner envie d'en savoir un peu plus.
Alors merci pour cette petite liste bien sympathique. C'est dommage, mes cours de maths n'étaient malheureusement pas comme ça.
Ah bah ça dépend du prof que tu as eu. Bon allez, avant de passer à la suite, une petite blague, Clément.
Je suis toute oui.
Quel est le point commun entre l'amour et les mathématiques ?
Bon, je me mouille pas trop, puisque si j'ai bien compris le thème de l'émission, c'est le sexe.
Ah, presque. Bon, pour les deux, ça commence par des baisous, puis ça hurle dans la grange pour finir par faire des gousses. Les mathématiques. Toutes ces expressions qui font appel à notre expérience très sensible pour décrire des notions mathématiques abstraites révèlent bien une chose. Les acteurs et actrices des mathématiques sont humains avant d'être mathématiciens et mathématiciennes et qu'ils peuvent être de sacrés petits rigolos. Mais à l'inverse, peut-on expliquer, en utilisant des notions mathématiques, ce qui fait que nous pouvons, en tant qu'êtres humains, être attirés par telle ou telle personne ? Peut-on arriver à décrire la source de nos désirs à l'aide d'une craie, d'un tableau noir et de quelques queues de singe ? Vous l'imaginez, le sujet est vaste et il serait impossible de tout traiter ici. Aussi, je vous propose de nous concentrer sur un aspect bien particulier, ce qui sous-tend notre conception du beau. Bien sûr, lorsqu'il s'agit de désirer quelqu'un, l'apparence physique n'est pas forcément un facteur dominant. Bon, mais avouons-le nous, ça joue quand même pas mal. Bon, évidemment, on a tous des critères différents, c'est pourquoi on va essayer de voir s'il n'y en a pas un qui nous est commun et qui échappe au contexte socioculturel. Par exemple, bon, s'il est certain que vous, mesdames, raffolez du brun ténébreux, certaines en revanche le préféreront imberbe, bon, d'autres avec une barbe de 3 jours, etc. etc. Enfin, je plaisante, bien sûr. Intéressons-nous d'abord à l'adage « Ce qui est beau, c'est ce qui est complexe ». Bien sûr, on sait tous qu'on ne peut pas réduire la beauté à ce seul critère, car la symétrie qui met de l'ordre dans le complexe est aussi un critère esthétique. Mais cela reste un critère à ne pas négliger. Par exemple, il n'y a rien de plus simple qu'une toile monochrome blanche et qu'on ne peut pas vraiment dire que celle-ci est belle. Bon, alors comment mathématiser ce concept de complexité ? Eh bien, on va chercher la réponse du côté de l'informatique théorique. Pour décrire un objet, on peut utiliser un programme informatique écrit dans un certain langage sur une certaine machine. Par exemple, pour représenter une image, une méthode consiste à la découper en points, les pixels, et pour chaque point, pris un par un, on indique la couleur de ce point. Le programme est donc très basique. Il s'écrit comme la succession des couleurs de chaque pixel, pris dans l'ordre voulu, pour afficher l'image à l'écran. Par exemple, pixel 1, blanc, pixel 2, rouge, pixel 3, vert, etc. Regardons alors la taille de ce programme. Dans ce premier exemple, la taille du programme peut être très grande, car la plupart des images numériques contiennent beaucoup de pixels. Une question légitime est alors de savoir quelle peut bien être la taille du plus petit programme informatique qui permet de décrire l'objet avec une certaine machine et un certain langage. C'est ce que l'on appelle la complexité de Kolmogorov de cet objet relativement à cette machine et à ce langage. Reprenons l'exemple de l'image. On peut créer un autre programme pour décrire une image qui a des chances d'être plus court. Le principe est simple. Dans l'image, il est possible que plusieurs pixels qui se suivent aient la même couleur. Par exemple, les trois premiers pixels, pixel 1, pixel 2, pixel 3, sont blancs. Il est alors inutile de répéter trois fois le terme blanc dans le programme. On indique juste le nombre de pixels qui se suivent et qui ont cette même couleur. Et pareil pour les autres couleurs. On élimine ainsi les répétitions et on peut réduire la taille du programme précédent en moyenne. Mais cette notion seule est-elle pertinente pour décrire ce qui est beau? Eh bien, pas tout à fait. Pour comprendre cela, intéressons-nous à quelques exemples. Certaines œuvres, comme des œuvres d'art géométrique islamique, typiquement certains pavages et mosaïques de l'Alhambra de Grenade, ou des formes provenant du mouvement Art Nouveau, ont une valeur esthétique assez consensuelle. Mais en réalité, leur complexité de Kolmogorov sera faible pour une machine suffisamment puissante. Ces œuvres présentent en effet beaucoup de symétrie et de motifs, les rendant facilement descriptibles par des formules simples. La preuve, en les regardant suffisamment longtemps, un être humain peut comprendre leur agencement intrinsèque. Il n'est donc pas nécessaire qu'un objet ait une complexité de Kolmogorov élevée pour pouvoir être considéré comme beau. Mais alors, est-ce suffisant? Eh bien, la réponse est encore non. Imaginons que sur une toile entièrement blanche, on dessine des petits points noirs de manière aléatoire. De par le caractère aléatoire du dessin, justement, on ne peut pas y trouver d'ordre intrinsèque. Il va donc falloir un nombre assez grand d'instructions pour décrire l'œuvre, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, sa complexité de Kolmogorov sera très grande, et ce, peu importe la machine utilisée. Or vous, je sais pas, mais moi, ce genre d'œuvre ne me fait pas vraiment mouiller. Bon, plus décevant encore, deux objets peuvent avoir la même complexité de Kolmogorov, mais ne pas posséder le même caractère esthétique. Pour vous en convaincre, prenez une photo de votre chéri ou votre chérie, imprimez-la en deux exemplaires dont vous découpez l'une en petits carrés. Réassemblez alors les petits carrés dans un ordre différent, de sorte par exemple qu'un œil puisse se trouver à la place de la bouche par exemple. Eh bien, les deux photos auront des complexités de Kolmogorov relativement similaires, mais je parie que vous préféreriez la photo intacte.
Elle ne porte rien. D'autre qu'un peu d'essence de guermin dans les chaleurs.
Jusque-là, nous ne sommes pas intéressés à ce qui se passait selon le type de machine utilisée pour calculer la complexité de Kolmogorov d'un objet. A priori, pour deux machines différentes, un même objet pourrait avoir deux complexités de Kolmogorov différents, simplement parce que les deux machines utilisent des langages différents et, entre guillemets, résonnent différemment. Pour dire la même chose, l'une pourra utiliser plus de mots que l'autre. Or, il y a un résultat qui stipule l'existence d'une machine universelle, en ce sens qu'elle optimise la complexité de Kolmogorov de tous les objets. C'est en quelque sorte une machine qui comprend, toujours entre guillemets, l'ordre intrinsèque des objets considérés. Pour un objet très géométrique, comme les pavages de l'Alhambra à Grenade, elle va en saisir toutes les symétries et les motifs. Et donc, elle aura un programme très court pour le reproduire. Bon, en revanche, une machine non universelle, plus simple, ne saisira pas ce sens intrinsèque et se contentera d'une description plus superficielle. Elle pourra par exemple décrire l'objet point par point ou pixel par pixel, un peu comme dans le premier exemple que nous avons vu, nécessitant alors un plus long programme. On a alors deux complexités de Kolmogorov, l'une pour une machine universelle, l'autre pour une machine plus basique. Comme on l'a vu, la première sera plus faible en général que la deuxième. Et ce qui est intéressant, c'est l'écart qu'il y a entre ces deux complexités. En 95, Roland Yelehada énonce le principe selon lequel plus l'écart entre ces deux complexités est élevé, plus un objet a des chances d'être considéré comme beau. Bah, en effet, un écart important signifie qu'il y a un ordre important dans la structure intrinsèque de l'objet, mais qu'il est difficile à saisir superficiellement. Vérifions-le sur quelques exemples. Bon. Reprenons celui de l'œuf constitué de points dessinés au hasard. Comme il n'y a pas d'ordre, car tout est aléatoire, la complexité de Kolmogorov sur une machine universelle est à peu près la même que pour une machine plus basique, donc l'écart est très faible, ce qui reflète bien la réalité. Cette œuvre a bien une pauvre valeur esthétique. Bon, le cas des fractales confirme aussi ce principe. Les fractales sont des figures très complexes mais constituées à partir de formules très simples. L'écart entre les deux complexités sera donc élevé, et je vous laisse le soin de vous faire un avis sur ces objets en recherchant des images sur Internet, par exemple.
Ouais, ça m'intéresse, ça. Moi, je vais faire une recherche après le direct.
Tu me diras ce que t'en penses.
Volontiers.
Pour toutes ces réflexions mathématiques sur le beau, je me suis aidé d'un livre de Jean-Paul Delahaye, Les inattendus mathématiques, que je vous recommande. J'espère en tout cas que l'émission d'aujourd'hui vous aura plu, en direct du studio de l'ENS. Je remercie Manu à la régie et Marie au jingle. Merci à toi Clément aussi d'avoir participé.
De rien, avec plaisir.
C'était probablement le dernier numéro de Danse avec les maths avant les vacances. Mais je vous donne rendez-vous pour la suite à la rentrée prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de danser.